toutes et à tous, nous voici repartis avec le reste de matériel que nous avons fonctionnel sur les extérieurs. Aujourd'hui, nous avons installé la partie fonctionnelle de notre studio mobile à la MJC Bel et Bas, à l'occasion des rencontres trimestrielles que nous réalisons autour de sujets de société, où nous invitons à échanger, à questionner, à en savoir un peu plus sur certaines thématiques. Je reviens juste une demi-seconde. Pourquoi est-ce que je vous disais que le peu de matériel qui nous reste, eh bien, il était prévu initialement en direct. Vous avez droit à une diffusion, mais les prochaines, rassurez-vous, pourront être en direct. Et ça aussi, ça nous rassure. Aujourd'hui, le thème qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la presse locale. Quoi, qu'est-ce, pourquoi, comment, nous poserons toutes les questions que nous pourrons. Et pour réaliser cette émission, c'est avec la complicité d'Adrien que nous l'avons montée.
Alors oui, parfaitement, j'y sais. On a 1h30 ici aujourd'hui pour aborder tous ces sujets. Il est d'habitude possible de participer quand il s'agit d'un live, évidemment, et de nous rejoindre au RIF habituellement aussi, même si cette fois c'est différent.
Bah, si les gens ont l'envie, qu'ils n'hésitent pas, de toute façon, on leur racontera après. Effectivement, donc pour parler de ce qu'est la presse locale, les tenants, les aboutissants et toutes les questions que nous n'avons jamais osé poser à nos journalistes mais que nous ferons aujourd'hui, nous avons à nos côtés Charles Giavacchini, pardon, on dit Kini d'ailleurs. Kini, ouais, Kini.
Ouais.
Voilà, c'est très ça. Bien. Excusez-moi d'avoir légèrement écorché. Rédacteur en chef des titres locaux Leur Info et La Dépêche.
C'est ça.
Et nous sommes également avec Vincent Le Gallois du Paris-Normandie.
De Paris-Normandie,
responsable de l'agence locale. Pourquoi pas du Paris-Normandie?
Je ne suis pas, du je journal. Travaille pas à le Paris-Normandie. Le titre, c'est Paris-Normandie.
D'accord,
tout court.
Très bien, merci de nous reprendre. On avait dit qu'on se reprendrait rapidement. Vous comme m'avez ça, bien pris dès le début, c'est parfait. Maintenant que ça c'est fait, on peut y aller. Ma toute première question va être le Paris-Normandie.
Paris-Normandie tout court.
Paris-Normandie, d'accord. Oui, je mets le journal Paris-Normandie. Alors, je vais rajouter le journal Paris-Normandie est sur une sortie quotidienne. Leur Info et La Dépêche sur des sorties hebdomadaires le mardi et le jeudi, si je dis pas de bêtises.
Le mardi et le vendredi.
Mardi et vendredi.
Pour La Dépêche.
Très bien. Est-ce qu'on aborde pareil l'actualité quand on est dans la sortie quotidienne d'un titre ou quand on est dans une sortie hebdomadaire ou bi-hebdomadaire? Enfin, comment vous abordez du coup, vous, la façon de construire le journal?
Alors moi, je n'ai travaillé qu'en quotidien, donc je ne pourrais pas tellement répondre. Je pense que Charles et son équipe abordent de façon un peu différente par rapport à nous, peut-être plus sur des dossiers avec un peu plus de temps pour préparer, etc. Mais
alors ça, c'était valable peut-être hier, mais aujourd'hui, on va sûrement en parler avec le web... qui nous occupe maintenant H24, ça a pas mal changé, quoi, parce qu'on a beaucoup moins de temps pour préparer des dossiers et on est dans l'actu finalement en continu, on est devenu des hebdos mais aussi des quotidiens, quoi. Donc ça a pas mal changé la donne, mais ça je pense qu'on en parlera si on parle du web.
Ouais, tout à fait, on va parler du web au bout d'un moment parce que c'est incontournable de toute façon au 21e siècle et de la façon dont les journaux communiquent, la notion web est importante. Est-ce qu'il y a, j'imagine que oui, alors quelle est la ligne éditoriale, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale très claire de dire là où on va, là où on va pas au niveau de vos journaux? Est-ce qu'elle est écrite quelque part? Est-ce qu'il y a un cadrage, on va dire, éditorial?
Nous, à l'échelle du groupe auquel j'appartiens, Ouest France, c'est éviter de blesser les lecteurs. Donc, mais au-delà de ça, il n'y a pas réellement de ligne éditoriale.
Je pense que chaque journal correspond à un certain nombre de valeurs. Je pense à Ouest France, issu de la résistance, avec
des valeurs humanistes.
Des valeurs humanistes, voilà, c'est ça. Mais pas de ligne éditoriale tranchée par rapport à ta question où on va, où on va pas. Quelque part, on va partout. Il n'y a pas de zone interdite, il n'y a pas de. Enfin, qui sont fixées comme ça, arbitrairement. On traite tous les sujets. L'idée, c'est pas d'être dans l'agression, de pas être dans le sensationnalisme à tout craint. Voilà, je pense que la ligne, elle est là, mais elle est propre à chaque journaliste. Elle est pas décidée, elle vient pas d'en haut, quoi.
Et finalement, c'est vous, donc, en tant que responsable local ou en tant que rédacteur en chef, qui cadrez les équipes. C'est comme ça que ça fonctionne, ou il y a pas non plus de cadrage des équipes?
Si, il y a un cadre, enfin un cadrage entre guillemets, puisqu'on discute des sujets entre nous et on se fixe aussi les limites, ouais, mais c'est une discussion maintenant quotidienne, même pour les hebdos, on y revient.
Voire pluri-quotidienne.
C'est ça, ouais.
Et voilà, même de la façon sur la forme, ce qu'on appelle la façon de traiter un sujet, pour trouver un angle, c'est une discussion. Comment on aborde une manif, comment on aborde une conférence de presse, etc. Tout ça, c'est de la discussion, c'est comment on traite tel événement. Dans la discussion.
Alors justement, comment se fabriquent vos journaux? Là, on va être une petite souris dans la conférence de rédaction, non? Ça se dit comme ça? Enfin, c'est des termes que vous utilisez. On va être la petite souris, là. Alors, vous nous dites ce que vous voulez bien nous dire, mais comment se fabrique le journal? Est-ce qu'il y a une maquette vide et puis chacun vient mettre son nom en face d'une case ou un sujet? Enfin, comment ça... Voilà, on veut avoir les petits secrets de fabrication.
On part d'un rail, d'une maquette, d'un chemin de fer vide. Deux fois par semaine en ce qui nous concerne, et il faut remplir effectivement les cases. Alors pour ça, on a l'agenda institutionnel, des rendez-vous que nous on va chercher, se fixer à l'agenda.
Comme par exemple, là dernièrement il y avait la sortie des noms, par exemple du Requis Névreux, c'est un événement majeur au mois de juin, la sortie était là. Ça fait partie par exemple des rendez-vous, enfin des choses notées d'avance.
Ça c'est calé, c'est prévu, on le sait depuis un mois, voilà.
Mais c'est de l'agenda pur.
Voilà, c'est de l'agenda, ce qu'on appelle l'agenda pur, ouais.
Et donc après, voilà, les petites cases. Alors il y a les cases récurrentes, j'imagine. Il y a
des rubriques,
des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est attitré à un journaliste, à quelqu'un en particulier, ou c'est des catégories qui bougent aussi?
Nous, on a des rubriques.
On appelle les catégories, les rubriques.
Voilà, nous, on a des rubriques qui sont attribuées, qui sont faites toujours par la même personne. Et on en a d'autres où c'est contributif. Ou c'est des fois plus directif quand il y a rien dans la rubrique en question. C'est aussi le boulot du responsable local de dire écoute, là c'est ton tour, voilà, c'est à toi d'alimenter cette semaine ou aujourd'hui. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne.
Nous on fonctionne, on a des journalistes qui sont attitrés aux pages à l'info locale, et deux journalistes spécialisés, un en loisirs qui s'occupe des pages de culture, du cahier loisirs des deux hebdos, c'est David Chappelle, et puis un journaliste qui s'occupe des pages sport, Philippe Guinchard.
Donc ça, c'est leur partie à eux, en dehors, après, c'est en fonction de...
Alors, ils sont complètement autonomes sur leur page. Hein. Nous, localiers, pur localier, on n'intervient pas dans leur page, ou alors exceptionnellement, quoi.
Sur cette fabrication, c'est quelque chose qui est assez naturel. On pourrait se dire, dans les équipes, on a l'habitude, ça fait des années que les tirages sont installés sur le territoire. Les équipes, il y a des équipes qu'on connaît bien d'ailleurs, ça fait des années et des années qu'on les voit. C'est un truc qui se fait assez naturellement, ou finalement c'est un truc de tension un petit peu, ces bouclages ou ces temps d'organisation des journaux? C'est quoi un peu l'ambiance, le moment?
Ça peut être parfois tendu, hein. Comme toute discussion, il y a des coups de gueule, ça peut se passer très bien, comme par exemple sur le choix des unes, les discussions des titres, il y a beaucoup de controverses, de discussions, ça bataille, c'est chaud, puis les journalistes sont des gens souvent de caractère, en tout cas dans ma rédaction,
on a les mêmes.
C'est le cas, bon, d'accord. Donc ça bataille, mais c'est intéressant, ouais. Bien sûr. Ouais.
Là aussi, il y a des discussions parce que faire un titre, faire une, c'est quelque part faire un article mais sans texte. Donc il faut ne pas trahir l'esprit du texte qui va venir derrière. En même temps, il faut quelque part, c'est la vitrine aussi. On a quelque chose à montrer, on a quelque chose à défendre. Il faut il y a aussi une logique commerciale à certains moments
qui arrive
devant. Voilà, c'est une accroche.
J'imagine qu'il y a les lecteurs habitués, puis les lecteurs de circonstances, et que c'est la une qui vient faire le boulot du lecteur de circonstances. Enfin, j'imagine en tout cas ça peut fonctionner comme ça.
Ça peut.
Voilà, ça pour les petites affichettes que vous trouvez chez chez le marchand de journaux le matin et qu'on fait tous les soirs pour le lendemain, pour tout le, enfin ce qu'on concerne pour tout le département. Voilà, c'est quelque chose qui naît aussi de la discussion, parce que sinon c'est quelqu'un, ouais,
les unes et puis les affichettes qui ça s'appelle affichette,
non, affichette,
c'est ouais, c'est l'affichette,
une affichette.
Donc les unes et l'affichette, c'est discuté aussi en conférence de rédaction quand ça distribue le boulot, ou ça c'est la partie vraiment plus d'un service qui se retourne de la com, ou au contraire c'est le précaré du rédac-chef?
Ah non,
ou,
c'est la rédaction, c'est vraiment une discussion,
c'est collectif
de la rédaction, ouais. C'est pas après, il y a un moment où il faut parfois trancher, hein. Ça peut aller trop loin dans les discussions sur les titres de une, c'est parce que nous on est enfin souvent potaches avec des jeux de mots parfois.
Oui, c'est ça, j'allais dire.
C'est un jeu d'équilibre assez compliqué. Des fois, ça va parfois trop loin. Ça nous est arrivé de déraper. Je citerai pas les cas, mais il y a eu des trucs pas très glorieux. Et, donc, faut maîtriser tout ça, et puis parfois trancher, imposer, quoi.
Oui.
Et on a de notre côté, on a une autre contrainte, c'est que bon, au niveau de d'Evreux, au niveau de l'Eure, on a nos sujets forts du jour. Mais nous, on appartient aussi à un quotidien régional, avec un service région qui peut aussi avoir un gros sujet qui va concerner tout le monde. Et pour le coup, ça peut être le choix de notre siège, le choix de la rédaction en chef à Rouen, de dire demain, on ouvre dans toutes les éditions sur tel sujet. Parce que ça sera le cas demain, par exemple. Pas le lendemain de la diffusion, mais en tout cas le vendredi 8 février, ça sera une une unique à toutes les éditions de Paris Normandie, où qu'elle soit. Voilà.
Donc ça veut dire que peu importe l'actu locale, finalement des antennes.
Voilà, mais le gros sujet de une sera le même pour tout le monde, c'est-à-dire une interview de d'Edouard Philippe.
D'accord. Voilà. Donc ça a été décidé par la rédaction, ce sera posé comme ça. Justement, il y a aussi cette imbrication pour Paris Normandie en particulier, il y a les titres plus ou moins locaux. Par exemple, à Louviers, c'est pas tout à fait le même. Si je dis pas de bêtises.
Si
je dis des bêtises.
Oui, on a une rédaction à Louviers.
Oui, c'est ça. Non,
mais une rédaction à Louviers, mais oui. dont les pages se trouvent dans l'édition Heure Ouest, comme Évreux. On a une édition Heure Ouest, Évreux, Louviers, Bernay, Pont-Audemer.
D'accord.
Et l'édition Heure Est qui commence par Vernon, Les Andelys, Gisors, et qui ensuite reprend Évreux.
Et donc il y a des pages communes et des pages
distinctes entre les deux. C'est-à-dire que en gros, le lecteur de Gisors ne lit pas ce qui se passe à Bernay, réciproquement, pour résumer.
Et alors il y a choix aussi des communes, notamment parce que il y a Évreux qui est la ville centre de l'agglomération notamment, mais du coup on parle régulièrement de ce qui se passe à Fauville, de ce qui se passe à Fontaine-sous-Jouy ou autre chose. Est-ce qu'il y a une attention particulière dans vos titres d'aller chercher aussi des infos qui peut-être, si elles s'étaient passées sur Évreux, n'auraient pas mérité je sais pas un quart de page ou quelque chose comme ça, mais comme c'est sur une commune extérieure, finalement c'est valorisé différemment. Est-ce qu'il y a une attention comme ça sur finalement les communes limitrophes de la commune centrale?
Alors c'est aussi un problème de personnel, c'est-à-dire que nous journalistes locaux à la rédaction d'Évreux, on est 6, on travaille sur les cantons avec de notre zone de diffusion avec des correspondants locaux. Donc on a un peu de mal à y aller sur ces cantons en fait ils sont un peu pas isolés dans leur canton, mais ils gèrent leur page et on a du mal à faire remonter des sujets de Passy, de Saint-André, de Conches plus en avant, en tout cas dans le Canard. Ouais. Ça c'est un peu une difficulté, on a entre guillemets un peu abandonné les secteurs autour d'Évreux aux correspondants locaux.
On est un peu sur la même problématique, d'autant que on a aussi une contrainte de place, que le nombre de pages est fixe. Alors des fois ça nous arrange, des fois ça nous arrange pas. Généralement ça nous arrange pas, ça nous arrange jamais. Et après selon la répartition géographique, on essaye de couvrir quand même tous les jours le maximum de secteurs. On essaye d'avoir du Passy-sur-Eure tous les jours. Nous on couvre donc jusqu'à Verneuil, Nonancourt, tout ça. Donc on a une page sud. de l'Eure tous les jours. Là, il nous faut du Verneuil, il nous faut du Nonancourt, il nous faut du Breteuil. Voilà. Donc là, mais effectivement, on compte quasi exclusivement sur des correspondants.
Qui sont les mêmes, en fait.
Voilà. Qui, bien souvent,
c'est
sont les mêmes.
Les correspondants que vous avez des deux côtés, aussi bien au niveau de la dépêche, leur info, que oui. Paris-Normandie. Oui.
On a des correspondants qui travaillent à la fois pour le quotidien et les hebdos. Ouais. Voilà.
Donc il arrive que vous ayez les mêmes propositions d'articles mot pour mot et comment ça se passe du coup dans ces cas-là?
Là pour les correspondants, on est quasi exclusivement sur de l'agenda. Donc le sujet étant entre guillemets coulé dans le bronze, qui passe à droite ou à gauche. Par contre, là où moi je pinaille un peu, c'est que je veux pas le même article que dans la concurrence, quoi. Voilà, quelque part, même si c'est la même personne qui écrit, je réclame quand même qu'ils fassent l'effort de faire deux articles.
Oui, en théorie, on leur demande
la même chose. Voilà, en théorie, ouais. Et deux photos différentes, et voilà, parce que c'est deux employeurs.
Vous lisez réciproquement?
Ah bah obligé.
Non.
Et du coup dans quel but on se lit réciproquement? Parce que là on a l'impression que voilà que ça s'entend bien, mais je sais pas quelle est la nature de vos relations.
Elles sont concurrentielles.
Non mais savoir si elles sont concurrentielles.
On voyage pas ensemble,
non,
tout ça.
Non. Non, on s'entend bien sur le terrain, c'est vrai, ouais. Mais on reste concurrent, quoi, et c'est ce qui est plutôt excitant, entre guillemets. Quoi,
oui, ça fait partie du jeu.
Ça fait partie du jeu, de sortir l'info que l'autre n'a pas.
Voilà,
alors c'est plus compliqué pour nous, parce que les infos, quand on les a, il faut les tenir une semaine. L'avantage du quotidien, ouais. Enfin, ça aussi, ça a changé, puisque avec Internet, on peut balancer direct. Ouais. Mmh. Mais avant, moi, j'ai travaillé pas mal en quotidien et avec deux quotidiens face à face. Donc, dans des rédactions isolées, je travaillais au Maine Libre dans la Sarthe avec donc Ouest France en face. On était très potes entre localiers, journalistes, mais concurrents. Et tous les matins, tous les soirs, on se tirait la bourre. Sur le sujet qu'on allait sortir le lendemain, quoi. Mais c'est une vraie émulation en même temps.
Bah, du coup, comment on lit le journal du concurrent, entre guillemets? C'est un côté, j'imagine, professionnel quand on épluche le journal de l'un de l'autre. On regarde où sont placés, dans quel ordre les articles, ce qu'ils ont mis en avant.
Forcément, je commence par la une parce qu'en disant qu'est-ce qu'ils ont mis en avant et qu'est-ce qu'on a raté encore. Voilà. Et ensuite, c'est vrai que c'est le par rapport au choix que Charles peut faire, quel est leur sujet fort en page 3, leurs petits échos en page 2. Voilà. Alors, voilà, ça, c'est des choses que moi je regarde en priorité parce que ça va être ce qui peut aussi, et là-dessus, faire l'actu pendant des semaines et des semaines. Voilà, je pense à l'histoire du budget municipal que Charles a sorti. Voilà, ça a fait l'actu de la ville.
Et ça continue, voilà. D'ailleurs.
Et ça continue.
Et c'est pas fini.
Voilà, donc ça rebondit et du coup ça nous concerne aussi parce que même si on arrive derrière, et ben le sujet il est sur la place publique et on s'en empare également.
Il y a des sujets comme ça que vous avez découvert en lisant le canard de l'autre?
Bah oui,
des trucs en disant mais merde, on est passé à côté de ça. Il y a eu des trucs, quoi, quand même. Ouais,
c'est un peu l'angoisse du matin, c'est à dire que tu te lèves difficilement, tu prends ton petit déj, tu pars de la maison et t'arrives au bistrot en bas de la rédac, tu vois l'affichette de Paris Normandie, tu dis putain, merde, raté. Bon, c'est pas grave. Voilà. On va se rattraper, mais
c'est deux fois par semaine. Voilà, c'est tu vas fébrilement chez le marchand de journaux le mardi et le vendredi matin, tu donnes ton 1,40€
et tu es merci, c'est gentil.
Voilà. Et voilà. Et tu te dis, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui.
Sur les angles d'attaque, on l'a abordé en tout début d'émission, tout à l'heure, où vous abordiez la notion d'angle d'attaque. L'angle d'attaque, c'est par quel prisme, en fait, on va regarder l'actualité, le sujet, et puis il va être traité, soit avec un spécialiste qui intervient dans le cadre, soit sur le côté témoignage, humain ou autre. Enfin, je sais pas, vous me complétez.
Oui, c'est ça.
Il y a comment est-ce qu'on détermine un angle d'attaque finalement sur un sujet? Est-ce qu'il y a une recette pour se dire non, celui-là on va le prendre côté témoignage, non, celui-là ça va être un expert qui va prendre la parole, là on se met d'un côté d'un parti ou de l'autre, comment ça se passe?
Sur des sujets qui sont rebattus, qui reviennent régulièrement, ce qu'on appelle les marronniers, notre côté, ce qu'on essaie de regarder, c'est essayer de varier un peu, quoi. Parce que si nous on varie pas le style et la façon dont on appréhende le sujet, le lecteur il va être comme nous, il dira ce sujet-là je l'ai déjà lu 15 fois, quoi. Donc on essaye de trouver une façon un peu alors originale, c'est un bien grand mot, mais
différente
de prendre un sujet qui a pu être déjà traité X fois.
Oui, parce que par exemple le sujet de la rentrée scolaire, par exemple, est-ce qu'il serait imaginable au moment la semaine de la rentrée scolaire de pas faire un article dessus, par exemple? Parce que là c'est clairement du marronnier standard rentrée scolaire.
Tu peux pas y échapper, donc.
Ouais, mais justement, est-ce qu'on peut y échapper?
Ça serait un choix éditorial. De mon point de vue, ça serait une erreur, mais ça peut être un choix de dire ce qui va concerner des dizaines de millions de Français cette semaine. Bah nous, on n'en parle pas.
Ouais, on peut difficilement y échapper quand même, parce qu'effectivement, ça touche, ça touche quasiment toutes les familles, quoi. Tout le monde est concerné. On peut apporter nous des éclairages, et il y en a toujours des nouveaux finalement sur une rentrée scolaire, si parfois il faut chercher, mais
c'est jamais exactement pareil que l'année précédente. Mais après tout, oui, on pourrait considérer, enfin, un média pourrait dire, écoutez, nous, on décide.
Pas de rentrer cette année. Marc, voilà. Ça ferait plaisir
à beaucoup de monde, à beaucoup de gamins. Mais voilà, c'est.
Oui, parce qu'en plus, c'est souvent la une, hein. Enfin, le marronnier, c'est souvent la une, en plus, hein.
Oui. C'est puis un marronnier, ça peut reposer un peu, hein.
Ça peut faire du bien, ouais. Ah ouais. L'agenda n'a pas que du mauvais. Donc.
Jean-Jean, vous souhaitiez intervenir.
Oui, il y avait une question dans la salle, justement. Certaines personnes s'interrogeaient tout à l'heure. Vous avez parlé de correspondants.
Ouais.
Et donc, la question est la suivante. Est-ce que des correspondants de presse peuvent travailler pour différents titres concurrents?
Eh ben oui, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On a pas mal de correspondants locaux qui travaillent à la fois pour le quotidien régional et les hebdos locaux. Ils bossent pour les deux, quoi.
Bon. Et ce qui correspond aussi, en tout cas dans la région, à une pénurie de correspondants. Moi, je me rappelle
vas passer une petite annonce, c'est
ça? Non, mais c'est. S'il y a des gens qui veulent devenir correspondants, il n'y a aucun problème. 41 rue Joséphine peut venir.
Alors, c'est beaucoup plus intéressant chez nous au niveau.
Ouais, mais nous c'est tous les jours. Mais moi j'ai commencé comme correspondant à Ouest France en 1992.
J'étais pas né.
J'ai passé un entretien et on était 3 ou 4 pour un poste de correspondant.
Ouais.
Aujourd'hui on a quelqu'un qui se présente comme correspondant. Déjà on regarde si c'est pas pour surprise, si c'est pas une blague. Et voilà, donc
pourquoi c'est pas intéressant d'être correspondant
globalement pour un journal? C'est pas très bien payé.
Ouais. Mais il y a plein d'autres choses pas très bien payées.
Il y a plein d'autres choses. Ça prend beaucoup de temps, ça prend du temps le soir, le week-end. C'est quelque chose dont on se rend compte qu'il y a de moins en moins de gens qui sont prêts à le faire.
Alors, on vient de parler de correspondants, on a parlé de journalistes, on a parlé de rédacteurs, tout ça. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur les rôles des uns et des autres et quelle est la différence entre un journaliste, un pigiste, un correspondant, un rédacteur, c'est peut-être un peu plus évident, mais revenir aussi sur qui sont tous ces gens, en fait. Il y a plusieurs noms, on dit toujours, par abus de langage sûrement, tiens, j'ai croisé un journaliste, mais sans savoir si finalement sa fonction ou comment ça se goupille. C'est quoi la différence, Valère, entre un journaliste, un pigiste, un rédacteur et un correspondant dans l'organisation? Et qu'est-ce qu'on attend de chacune de ces personnes?
Entre journaliste et pigiste, là je peux faire la différence facilement. Le journaliste, il est salarié d'un titre. Le pigiste, il est pas salarié du titre, mais il est payé à l'acte, on peut dire. Ouais, au papier, quoi.
À la commande.
Mais il est professionnel. À la différence d'un correspondant qui lui n'a pas de carte professionnelle et est travailleur indépendant.
Voilà. Ouais. Pour qui ça peut être une activité complémentaire, pour quelqu'un qui a un autre métier ou qui est à la retraite, par exemple.
Et du coup, sur une équipe, alors je vais revenir sur cette distinction journaliste-pigiste, c'est un peu l'intérimaire finalement, le pigiste, on l'utilise en fonction des compétences particulières. Plutôt, voilà. Intermittent. Ouais. Ça veut dire qu'on l'utilise pour ses compétences très particulières sur un sujet, par exemple, je sais pas, une interview politique, dans la rédaction, sur tel sujet particulier de politique, on préfère faire intervenir quelqu'un de plus spécialiste, c'est ça? Ou c'est en fonction du volume de travail plus?
En hebdo, on n'utilise pas de pigiste, enfin, jamais. Mais par contre, dans le quotidien, peut-être, je sais pas.
Nous, on utilise, mais ça peut être sur des rubriques spécialisées, notamment en culture. Par exemple, pour notre rubrique cinéma, par exemple, on a une pigiste, mais pour le groupe, enfin pour tout Paris Normandie, pas spécifiquement pour l'édition d'Evreux. Voilà, quelqu'un qui ne fait que ça. Mais qui n'est pas salarié à temps plein du groupe Paris Normandie. Pas du titre Paris Normandie.
Voilà, on vient de parler de titre, de groupe et tout ça, bah c'est le moment ou jamais de poser cette fameuse question, à qui appartiennent ces titres, Paris Normandie, leur info, la dépêche, c'est une des questions qui est importante aussi quand on lit un article, ou un journal même, il est important de savoir à qui il appartient, et ça veut dire quoi d'appartenir à un groupe, ou enfin, qu'est-ce que ça induit en fait d'appartenir à un groupe?
Alors c'est une question qui fait pas mal débat, ça, puisque il y a pas mal de groupes de presse qui ont été pris soit par des banques, je pense au Crédit Agricole, Crédit Mutuel, qui sont propriétaires de journaux, par des hommes d'affaires. C'est le cas de Drahi ou de Louvel pour Paris Normandie, ou de Tapie avec la Provence, Corse Matin. Qu'est-ce qu'il y a encore comme propriétaire de groupe?
Bigas,
des familles. Il y a des familles, Bettencourt,
Pinot.
Ouais, LVMH, Arnaud. Ouais. Alors nous, en ce qui nous concerne, Heure Info La Dépêche, ça appartient au groupe SIPA Ouest France, qui est contrôlé par en fait une association sans but lucratif. Qui a été créé en 1990 par le quotidien Ouest France pour garantir son indépendance, pour qu'il n'y ait pas de possibilité de rachat du groupe. Donc il y a 7 assos avec les familles qui ont créé Ouest France en 1944, qui ont créé cet assos pour protéger l'ensemble du groupe de toute OPA hostile. Nous, on est dirigé par une association, loi 1901.
Ça fait une différence.
C'est unique en France.
C'est assez particulier. Ça fait une différence sur la façon de travailler, sur jusqu'au journal, quoi, en fait. Est-ce que ça fait une différence dans ce qu'on a dans la main?
Nous, à notre échelle, à l'échelle des hebdos, des 77 hebdos du groupe, non, on est complètement indépendant. On n'a pas de directive du siège qui est à Rennes, que ça soit du groupe ou du siège de Publi Hebdo, quoi. On est franchement totalement libre. C'est même parfois un peu effrayant.
Tant de peur du vide,
tant de liberté.
Oui, c'est ça. Faut arriver à contrôler cette liberté là. C'est pas facile de jouer avec ça, quoi.
Pour Paris Normandie,
qui s'appartient. Donc ça appartient. On a un actionnaire principal qui s'appelle Jean-Louis Louvel, qui est un chef d'entreprise normand qui a repris le journal en 2017. Enfin, entièrement. Il était déjà actionnaire. Précédemment. Et nous, on est un des peut-être derniers journaux indépendants, c'est-à-dire liés à aucun grand groupe, alors que géographiquement, on est coincé entre Ouest France, sur notre versant ouest, aujourd'hui en France, le Parisien, sur la partie sud-est, et le groupe Voix du Nord, qui a le courrier Picard, c'est-à-dire à partir de Beauvais jusqu'à la frontière belge. On est un peu coincé entre ces trois mastodontes de la presse française, et il reste Paris-Normandie. Mais moi, de la même façon dont parlait Charles, moi, le propriétaire, il m'a jamais appelé. Hein, il décroche pas son téléphone en disant il faut faire tel sujet aujourd'hui et traiter-le de telle façon parce que je veux ci, je veux ça. Moi, jamais. Jamais ça me... C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On a quand même Charles parle de liberté. C'est un terme qui m'est cher aussi. Et il y a aussi une notion de confiance, c'est-à-dire que on a un propriétaire qui nous laisse travailler, qui nous fait confiance sur notre façon d'être des professionnels, de bien traiter l'info et d'être au service de notre territoire et des gens qui l'habitent.
Adrien peut-être ?
Oui, non, moi je me posais quelques questions, mais par exemple, enfin comme ça, quelles dynamiques peuvent exister entre les médias locaux et les résidents de cette même localité, en fait, s'il y a des liens qu'il peut y avoir ?
Entre les habitants du territoire,
ouais, du territoire, oui, que le média.
Les liens, ils sont que, enfin, c'est des gens qu'on rencontre tous les jours. À la fois, nous, on vient rendre compte de leur, de ce qu'ils font, de ce qui fait leur quotidien. Et puis aussi, enfin, ils nous appellent, ils nous envoient des mails, ils nous rencontrent sur le terrain pour nous dire, ah, il se passe quelque chose dans mon village ou demain, oh, j'ai vu telle chose. Voilà, c'est, il y a une, alors c'est un terme qui a été beaucoup galvaudé, mais une interactivité entre un journal local et des journalistes locaux. Et les lecteurs.
D'accord, une sorte d'échange en fait. Mm.
Et j'imagine quand ils sont pas contents non plus de l'article, parce que ça doit arriver. C'est-à-dire que
ceux qui sont contents n'appellent jamais. Hein.
Oui, c'est ça.
Ou c'est rare. Oui.
Mais du coup, de bosser en proximité, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai écrit un article, alors soit qui relate pas tout à fait ce que les personnes souhaitaient relater, le perçoivent, ou parfois même peut-être des erreurs de
factuelles
peuvent arriver, hein, j'imagine. Voilà, quand les gens ici sont pas contents, c'est simple, quoi.
C'est la porte à côté.
C'est ça.
Ils peuvent venir nous voir, ou nous envoyer des messages. Enfin, ils peuvent passer physiquement à la rédaction, ça arrive. On s'explique. Hein,
mais du coup, ça oblige à notre rapport.
Rectifié.
C'est vrai que sur un Libération ou un autre journal national, c'est vrai que ça doit moins arriver, ça.
Ouais, ou alors en tout cas il y a la distance géographique.
Oui, voilà.
Mais non. Enfin moi je trouve que c'est même plutôt sain, quoi, que quelqu'un qui se sent, même sans parler de quelque chose qui l'aurait choqué ou surpris, que quelqu'un puisse se dire j'ai vu quelque chose dans le journal, ça me fait réagir et je vais marcher 5 minutes et puis je vais aller rencontrer le journaliste qui a écrit ça, puis je vais lui en parler directement parce que je cherche à comprendre pourquoi ça a été fait de cette façon, pourquoi il a écrit ça, voilà. Moi, je trouve que c'est même plutôt riche pour le débat, quoi.
Oui, ça prouve qu'on existe encore en plus.
Ouais.
Oui, justement, le rôle du journaliste, alors il peut effectivement redonner des éléments factuels. On parlait de l'agenda, par exemple, ou de choses comme ça, de toute façon, il y a très peu de place pour l'écriture à proprement parler, ou pour aller au fond d'un sujet sur un agenda. C'est plus difficile, j'imagine. Mais il y a un rôle aussi, parfois, d'analyse que la population, le citoyen n'a pas forcément. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois aussi le rôle du journaliste. Finalement, il accède à des données, à des infos, à rencontrer des gens,
voilà, c'est voilà, ça, il y a ça aussi, ouais.
Auxquels nous, simples citoyens, n'accédons pas forcément. Donc du coup, il a une vision différente d'une information, et souvent face à une information, on peut avoir un avis qui est pas là pour le coup factuel, qui est un avis personnel en fonction de ses opinions de manière générale. Quel est le rôle du journaliste là-dedans, finalement? Est-ce que le rôle du journaliste, c'est donner son opinion sur une information? On l'évoquait en début d'émission là, que un des sujets qui a alimenté dernièrement l'actualité était le budget municipal notamment. J'imagine que chacun peut en avoir un avis. Voilà, on est clairement sur des choix politiques, donc on peut avoir chacun son avis. Et est-ce que le rôle du journaliste, c'est de donner son avis, donner des clés pour que les gens aient un avis, pour que d'enrober les choses, ou de rester que sur du factuel, proposer des éléments d'analyse? Enfin, comment vous voyez le rôle du journaliste?
A priori, nous, on n'est pas là pour donner notre avis. Et puis sur des sujets comme ça, c'est relativement simple de rester extérieur au sujet, puisque là, les avis abondent.
Ça, il suffit de tendre le micro.
Le budget, ça a suscité énormément de réactions dans toute la petite classe politique locale. Donc on a été abreuvé de communiquer, de réactions des uns et des autres. On est allé les chercher aussi. Après, libre aux gens d'avoir une opinion sur le sujet, mais nous, on expose les faits. Voilà, c'est ça.
Non, effectivement, on n'est pas là pour donner notre avis. Il y a des journaux dont c'est la vocation. Tu parlais de Libé tout à l'heure, voilà. C'est un peu le but. Mais voilà, sur des sujets, on est d'abord là pour relater des faits, ce qu'on voit, ce qu'on entend, à partir d'éléments qui nous sont donnés à droite, à gauche. C'est à nous d'analyser le tri. Un média, c'est aussi ça, c'est un filtre, c'est un tri. La première fois qu'on demande à un jeune journaliste de traiter un conseil communautaire ou un conseil municipal avec des sommes qui sont sorties comme ça, je pense au conseil d'agglo de mardi soir où on mélangeait les euros et les milliers d'euros. Enfin, au bout d'un moment, le boulot journaliste, c'est aussi de dire attendez, là, non, on parle pas de 1000 euros, on parle de 1000 kilos euros, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose.
Clairement pas.
Voilà. Donc, voilà, si. Il y a un travail d'analyse, oui, d'opinion, non.
Alors du coup, l'analyse, c'est quoi? C'est faire de la pédagogie pour... parce que par exemple, sur un conseil communautaire, je ne suis pas certain que la moitié des citoyens soient équipés pour... Enfin, équipés, j'entends, dans leur bagage politique, dans leur bagage des technicités particulières et tout. Tout le monde n'est pas équipé, en tout cas, pour comprendre tout ce qui se dit sur un conseil communautaire, par exemple. Est-ce que le rôle, au bout d'un moment, des journalistes est aussi de faire de la pédagogie pour qu'on comprenne mieux, pour qu'on apprenne.
Il y a une partie où, quelque part, il faut aussi se mettre à la place du citoyen. Enfin, c'est pas dur, parce que moi, je suis un citoyen aussi, hein, et je me mets à la place du citoyen en disant voilà, on m'expose telle chose sur un sujet hyper pointu, sur un programme de développement économique, sur un projet à 15 millions d'euros. Qu'est-ce que j'ai compris et qu'est-ce que j'ai pas compris? Et mon boulot et la facilité que j'ai en tant que journaliste, c'est que je peux aller voir les gens et leur poser des questions en disant là, vous avez. Là-dessus, je comprends pas. Expliquez-moi. Et j'aurais d'autant plus de facilité à rendre mon article clair que moi-même j'aurais compris le sujet. Donc oui, il y a de la pédagogie. Certains sujets l'imposent, quoi.
Oui, il faut arriver à synthétiser et vulgariser un conseil comme on a vécu mardi soir là, avec 24 ou 25 points à l'ordre du jour, des sujets un peu pointus, le débat d'orientation budgétaire, il faut en extraire les chiffres importants, il faut en faire une synthèse et puis évoquer un petit peu l'ambiance de la soirée, quoi.
Dans un volume contraint.
C'est ça.
Voilà. Ouais. Qui est.
Après, ça peut se décliner sur plusieurs semaines. Hein.
Ouais.
Ou jours.
Ouais. En l'occurrence, deux, parce qu'on y revient demain. Voilà.
D'accord.
Enfin, conseil communautaire en deux volets, là.
Du coup, il y a des sujets clairement et sur l'actu locale d'autant plus qui sont ce qu'on appellerait polémiques. On a eu alors de mémoire comme ça, mais c'est ça ce mois qui sur lequel j'ai accroché mon regard. Hein, il y avait eu la disparition de l'abordage il y a quelques temps, qui a été un sujet assez polémique très clairement. Hein. Là, très fraîchement, il y avait le budget de la ville qui a été un sujet très polémique.
Le parc viking.
Le parc viking très clairement qui a été un sujet aussi hyper polémique. Entre deux, c'était ultra local et polémique. Il y a eu aussi le sujet des gilets jaunes là, qu'on tient maintenant depuis un moment,
oui,
qui est un sujet assez polémique.
Rappel à la loi du maire d'Évreux. Oui.
Alors il y a ça, mais il y a aussi le sujet de manière générale qui est aussi assez polémique. Comment
pour des journalistes sur le terrain qui se font insulter, ouais.
Oui, alors je vais y revenir juste après parce qu'en plus avec le journalisme là sur ce mouvement en tout cas gilets jaunes, mais j'aimerais bien y revenir à part en fait sur.
Pardon.
Non, on va revenir à part parce que ça mérite d'y revenir sur la perception du public des journalistes. Du coup, comment on fait quand on est face à un sujet polémique? On sait qu'on lance une polémique au bout d'un moment, enfin, on le devine à l'avance quand on va sur tel ou tel sujet. La SMAC, à une époque, était aussi un sujet polémique. On savait, j'imagine que vous saviez dans vos rédactions, qu'à partir du moment où on allait marquer SMAC sur l'article ou qu'on va marquer budget de la ville, on sait qu'on lance quelque chose. Comment on l'aborde?
C'est pas nous qui lançons les polémiques. Hein. Finalement, la SMAC, si on y revient, il y avait une association qui s'était créée. L'abordage, c'était une association qui s'est défendue, qui a argumenté. Nous, on est là pour.
Il y avait une guerre de chiffres.
Il y a une polémique, mais c'est pas nous qui les lançons. On les relaie, on donne les avis, les pour, les contre, etc. Mais les polémiques, elles naissent de fait que nous, on est là pour relayer.
Pour les rendre publics.
Mais
après, il y a polémique et polémique dans le sens où il y a des grosses affaires, donc je parle le budget, le parc viking, etc. Mais je pense aussi à une association de quartier qui, une année, touche une subvention, je vais dire, de 2000 euros et l'année d'après, il touche 1000. Pour eux, il y a une polémique. C'est-à-dire qu'à leur niveau, c'est polémique qu'on leur ait sabré la moitié de leur subvention et on est aussi là pour parler de cet épisode-là. Donc, il y a...
Mais quand on, enfin quand on écrit une fois de plus, alors c'est vrai que oui, c'est une association qui avait 2000 et qui a 1000, effectivement pour c'est polémique.
Même si on est loin,
moins polémique sur le nombre de personnes
à leur niveau, voilà, c'est ça, c'est.
Mais quand on lance un sujet où on sait que ça va être polémique pour quasi tout le monde, effectivement le parc Viking a été clairement un point polémique, la salle de musique actuelle, enfin il y a des choses comme ça où on sait d'entrée que c'est pas genre polémique pour une petite partie des gens,
ça va être
une vraie grande polémique. Est-ce qu'il y a une façon ou des précautions pour l'aborder? Et je veux pas croire qu'il y a juste bon, nous c'est factuel et c'est tout. Non, le simple fait de choisir à quel moment on sort l'article ou pas, à quel moment est-ce qu'on donne un droit de réponse ou pas, par exemple, ça fait partie des j'imagine des stratégies, non, de donner droit de réponse ou pas.
Il
y a des trucs comme ça.
Si on nous demande un droit de réponse, on l'accorde. De toute façon, c'est cadré par la loi. Donc,
c'est extrêmement.
Et ça, c'est cadré par la loi.
Et c'est très contraignant. Le obtenir un vrai droit de réponse, c'est très très compliqué.
C'est-à-dire que face, alors, je le note dans un coin là parce qu'on y reviendra deux ans parce que ça c'est intéressant effectivement. Mais sur le droit de réponse, alors ça c'était un des éléments, mais sur ces notions de, des fois on a l'impression presque, voilà, c'est aussi la perception qu'on peut avoir en tant que lecteur de se dire bon alors il y a les marronniers, ça c'est le passage obligatoire, et puis il y a le sujet polémique qui redonne un peu de suivi ou autre sur la presse. Voilà, très clairement, est-ce que parce que j'imagine que quand on titre sur le parc Viking ou sur le budget de la ville, les tirages sont supérieurs sur un titre autour de, je sais pas, là, une manifestation sur le Bel et Bain, aussi grande soit-elle, non ?
Oui, oui, sur des sujets effectivement polémiques, on vend généralement un peu plus.
Donc, du coup, côté public, des fois, on se dit, oh, bon, là, c'était le sujet. Est-ce que c'était nécessaire ? Voilà, parfois, on se dit, on peut entendre dire, oh, est-ce que c'était nécessaire de revenir ? Est-ce qu'on n'est pas sur un surf de polémique ou des sujets où finalement, non, on répond très clairement. Enfin, où est la limite en fait entre, on sait que les lecteurs veulent ça. Parce que ça les intéresse.
Qu'est-ce que vous voulez dire là ? Vous voulez
la
dire
limite,
que
la limite, elle va être de dire est-ce qu'il y a une info ou est-ce qu'il n'y a pas d'info ? Parce que la limite, elle est là. Est-ce qu'on fait un article pour faire un article et en rappelant des faits, machin, et en tirant ce qu'on appelle tirer à la ligne, c'est-à-dire se faire un jus de crâne dans sa tête en disant il se pourrait que, machin, ou est-ce qu'on a de l'info ? La question, elle est là. Si on avait eu des infos, enfin, je me mets à la place de Charles, si Charles, il a des infos 3 semaines de suite sur le parc Viking et qu'il fait 3 semaines de suite la une dessus parce qu'il y a de l'info, c'est complètement logique, hein. Même nous, de la même façon, sur une semaine, on fait 3 ou 4 fois la une sur le même sujet, mais parce qu'à chaque fois, on apporte des informations complémentaires ou supplémentaires, là-dessus, je pense pas que le lecteur pourrait être usé ou se sentir floué si derrière on lui montrait la belle vitrine et que derrière il y avait rien.
Ce qui a été le cas sur les finances municipales, parce que en fait ça n'a jamais cessé pendant plus d'un mois de rebondir. À partir du moment où on a révélé des problèmes dans les finances de la ville, il y a eu derrière la démission d'une partie de la majorité municipale. Ça c'est, et puis ça a entraîné pas mal de choses jusqu'à aujourd'hui. Le budget qui va être représenté une deuxième fois
un autre conseil municipal, voilà.
Donc en fait oui, on a rebondi, on n'a pas entretenu cette polémique, on a rebondi sur des faits qui se sont déroulés les uns après les autres, quoi, sur le même sujet. Mais
je voulais revenir sur cette notion de droit de réponse, et du coup vous l'évoquiez à l'instant, Charles, c'est de toute façon on n'a pas le choix quand il y a une demande de droit de réponse, il n'y a pas le choix, mais peu importe le sujet, c'est ça, c'est comment ça se passe cette histoire de droit de réponse? Et Vincent, vous aviez l'air de dire que bon, c'est pas si évident
non plus. C'est beaucoup plus compliqué que certains peuvent le penser, et quand ils nous appellent le lendemain en disant ouais, vous m'avez cité dans le journal, je veux un droit de réponse. Moi, j'ai aucun problème avec ça, je dis aux gens, écoutez, le droit de réponse, c'est, il vous faut des, déjà, je vous conseille de prendre un avocat déjà pour que ça soit bien dans les clous. Et ensuite, moi, j'attends le courrier du tribunal en disant il faut publier le droit de réponse.
Mais c'est le tribunal qui saisit pour obtenir un droit de réponse.
Non, il y a deux voies, il y a deux voies légales pour le droit de réponse. Et il faut le faire dans les règles.
Il faut
mieux prendre un avocat si tu veux réellement
avoir une chance de l'avoir. C'est vrai.
Et ou alors tu passes par la voie judiciaire, hein, si au titre de la diffamation par exemple,
ou de l'injure publique, voilà.
Bon, mais quand des gens nous appellent pas contents pour un article ou un passage de papier et nous demandent un droit de réponse, nous on l'accorde sans problème, quoi, sans passer par les voies judiciaires.
Voilà, c'est-à-dire que ça peut substituer aussi par rapport, voilà,
ouais, bien en amont. Bien sûr. Quelqu'un qui nous apporte si on a commis une erreur, on n'a aucun problème pour l'accepter et puis pour la corriger, mais simplement l'appellation droit de réponse, c'est très encadré. Alors c'est devenu une expression, mais derrière il y a une vraie réalité juridique qui est aussi là pour protéger la presse, pour protéger les journaux, que à longueur de temps ils soient pas tenus, parce que une des conditions par exemple du droit de réponse, c'est que le droit de réponse doit paraître dans la même page, sur le même volume que l'article incriminé.
Ouais, faut avoir des réponses à donner en fonction de l'article, ou au contraire se restreindre sur sa réponse si c'était sur un bout d'article, enfin en tout cas sur une colonne ou autre. Voilà. Quoi.
Et on imagine que si le droit de réponse était plus facile à être infligé aux journaux, il y aurait des journaux qui seraient pleins de droits de réponse. C'est-à-dire qu'il n'y aurait même plus la place pour passer des infos. Heureusement qu'il y a aussi ce cadre légal qui protège un peu ceux qui écrivent, d'autant qu'on n'est pas là pour se faire plaisir et puis pour balancer tout et n'importe quoi. Charles parlait de diffamation, voilà, c'est pas...
Voilà. Ça aussi, c'est encadré par la loi, de toute façon, cette appellation de diffamation.
Ah oui, bien sûr.
Et c'est puni aussi par la loi, et puis c'est cadré par la loi, ce qui est une diffamation ou pas. Jean-Jean, vous souhaitiez intervenir.
Oui, on me demande dans la salle si des titres locaux ou régionaux ont déjà eu des procès.
Ah oui, du coup, ça c'est l'étape d'après, c'est quand ou pas forcément, non, une information qui ne conviendrait pas ou qui serait jugée comme
procédure, diffamatoire. Oui. Procès en diffamation, oui, nous ça nous est arrivé.
Bah, à Paris Normandie aussi, moi je suis pas très ancien dans la maison, mais ça c'est arrivé à tous les journaux, hein,
C'est régulier, c'est une pratique régulière. Enfin,
ça reste très exceptionnel.
Ouais.
Hein.
Ouais, il y a eu beaucoup de procès, enfin d'attaques. Au titre du droit à l'image sur une période...
C'était la mode.
Il y a eu toute une période, il y a quelques années, mais ça s'est tassé. Et finalement, on n'en a absolument plus parlé en ce moment. Il faut dire que l'image s'est mise à circuler dans tous les sens et sur tous les supports possibles et inimaginables. Tout le monde s'échange des photos de tout et n'importe quoi. Donc c'est devenu banal, j'ai l'impression.
Et aussi, des gens nous... Enfin, moi, ça m'arrive encore. Hein, où on me dit « droit à l'image ». Sauf que les gens ne connaissent pas le droit à l'image. Moi, quelqu'un qui manifeste dans la rue et qui me dit « Non, droit à l'image, je suis désolé, vous êtes sur la voie publique, vous êtes dans un groupe de plus de 10 personnes, je peux faire la photo si je veux, et je peux la diffuser, il n'y a rien qui m'en empêche. » Après, vous me dites que ça peut vous poser un problème professionnel, là on en discute.
Mais là, c'est l'humain et l'humain qui trouve un accord.
On peut dialoguer.
De la même façon, moi je trouve, j'ai travaillé un peu hors de France quelques années et je suis rentré il y a un peu plus d'un an. Et là, je vois la différence. On a de plus en plus de demandes de gens qui passent au tribunal, qui sont condamnés. Donc la consigne à Paris-Normandie, c'est quand vous prenez de la prison ferme, on met votre nom. Voilà, c'est le critère qu'on s'est fixé. Il y a rien qui nous y oblige, hein, ni la loi, ni nous. C'est le critère. Vous prenez de la prison ferme, on met votre nom. Et on a de plus en plus de demandes de gens qui nous disent voilà, j'étais au tribunal, j'ai été condamné, vous avez mis mon nom dans le journal. Maintenant, il faut l'enlever d'internet. Ouais, parce que l'article, il passe une fois dans le papier, mais après, il est sur le web et il reste ad vitam aeternam.
Ouais, c'est le problème du droit à l'oubli, quoi.
Voilà.
Ça vient se parfaire. On va y revenir dans un petit instant, justement, avec cette notion numérique, parce que c'est un volet important aussi de la presse, même papier, pour le coup, parce qu'elle n'est pas que papier, elle est aussi sur notamment les réseaux sociaux. On va revenir dans un petit instant, juste après l'intervention de notre ami Jean-Jean.
Oui, alors justement, pour faire une transition, comme on dit, qu'est-ce que vous pensez des perquisitions type Mediapart?
Un sujet d'actualité.
Ah bah ouais.
Évidemment, on trouve pas ça très très normal,
non. Voire carrément pas normal du tout.
C'est ça, ouais. Ouais. Bon, nous, ça nous est jamais arrivé. Non. On nous a demandé des images.
Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi.
Ouais, mais ça s'est arrêté là, quoi. Ouais.
Mais
Il y a quand même cette notion quand même de la presse. Enfin, les organes de presse, de manière générale, sont protégés par des lois particulières pour le droit de l'information quand même. Et ça, c'est important.
Protection des sources. Voilà.
Ça, en ce qui concerne Mediapart, qui est quand même un site spécialisé dans la révélation d'affaires financières et plus. C'est sûr, pour eux, les sources, c'est hyper important, quoi. Donc, voir débarquer un juge d'instruction et des policiers pour
saisir les ordinateurs.
Non, évidemment, non.
Les répertoires téléphoniques, les portables. Enfin, c'est pas possible, pas travailler comme ça.
Et puis c'est essentiel à garantir une information de qualité, objective et loin des pouvoirs qui pourraient influer dessus. Enfin, ça sert à ça quand même. Enfin, oui, c'est important de le rappeler qu'au bout d'un moment, c'est pas des lois de confort pour une profession qu'aurait tiré son épingle du jeu.
Oui, qui serait hors la loi.
Voilà, c'est ça, qu'aurait tiré son épingle du jeu au bout d'un moment. Non, pas du tout. C'est ça garantit clairement une indépendance médiatique.
Et puis un contre-pouvoir, quoi, essentiel à la vie démocratique, quoi. Donc s'attaquer à ça, on n'est pas pour, enfin, évidemment. Ouais. Ouais.
Cette notion de contre-pouvoir, en fait, elle est évidente par l'information. On est forcément, l'information tout simplement. Forcément, c'est du contre-pouvoir par rapport à ce qui est en place et ce qui existe, parce qu'on ouvre à d'autres possibles que la voie majoritaire, on va dire.
Oui,
il y a ce côté-là. Donc il y a vraiment une notion de contre-pouvoir dans la presse quand même.
C'est la différence entre l'information et la communication, quoi. Voilà. Est-ce que nous on est là juste un relais de ce qui nous tombe d'en haut ou de droite ou de gauche, ou est-ce que on est à même d'exercer notre libre arbitre, de travailler honnêtement pour rendre compte d'une actualité. Tu disais objectivité, moi je dirais plutôt honnêteté. Je pense que tout simplement, c'est un terme qui devrait résumer un peu la façon de voir les choses et de travailler.
On l'a abordé tout à l'heure, cette notion de numérique. Aujourd'hui, j'allais dire même la presse papier est sur Internet à travers également des supports comme la vidéo, aussi bien au niveau de leur info La Dépêche que de Paris Normandie.
Ah, on a PNTV.
Oui, voilà, il y a PNTV. Il y a même eu des programmes type magazine. C'est pas que du reporting, c'est aussi du magazine qui est produit sur leur info La Dépêche. Quand il y a un événement sur lequel les journalistes sont sur le coup, rapidement on a des vidéos avant même l'article papier, pour le coup.
On fait des lives où on relève via Twitter ou les autres réseaux sociaux des petites vidéos. Oui.
Ça, c'est devenu inévitable pour la presse, même en local, c'est devenu inévitable. Ça a été vous avez été projeté parce que, entre guillemets, pas le choix de suivre un mouvement qui fonctionne. Ça a été l'opportunité de développer d'autres outils, ça a été l'opportunité de réfléchir autrement aussi l'actualité.
Bon, on a un rapport différent.
Est-ce qu'il y a un rapport différent,
il y a un rapport différent à l'image, je crois, surtout. Le numérique a au début permis, là où on pouvait mettre par exemple qu'une seule photo par article, on pouvait se dire, maintenant on peut en mettre 10, quoi, on peut en mettre 20, on peut faire un bel album photo, on peut valoriser le travail des photographes ou sur un concert par exemple. Là on se frustrait à mettre qu'une photo, on dit c'est bon, on fait un bel album et on en met 15. Et puis après, l'étape suivante, c'est de dire on est à une manif, ça bouge un peu, il y a des jolies couleurs, on fait une belle photo. Et puis de la même façon, on peut aussi bien faire une vidéo de 10 ou 15 secondes qui va apporter un plus. Pour moi, ça va pas remplacer l'analyse du papier de l'article, parce que une vidéo de 10 secondes remplacera jamais un papier de 2000 signes, mais c'est un complément, c'est un élément supplémentaire qu'on peut apporter au lecteur parce que le support le permet. Je vois pas pourquoi on s'en priverait.
Je pense notamment, parce qu'aujourd'hui tout le monde fait vous évoquiez les lives, je pense aux lives Facebook notamment, il y en a peut-être d'autres, après je suis moins à la page sur les autres réseaux, mais en tout cas il y a les lives et tout. Aujourd'hui les citoyens aussi, vous parliez, on est sur une manif, on prend et on envoie, sauf que les citoyens, en fait, les gens ordinaires finalement qui vont dans la rue, font la même chose aussi. À quel moment finalement
on va se différencier,
on va se différencier quand on est la presse, comment ça se différencie,
sur les interventions sur Facebook, effectivement, je vois sur les manifs de Gilets jaunes, il y a du live.
Il y a deux semaines.
À peu près
exemple,
chaque manifestant fait du live, balance des photos. Nous, on est au milieu de tout ça, mais en fait, on s'appuie sur notre page Facebook et nos abonnés, quoi, pour relayer aussi les papiers. Donc, ça vient alimenter tout un système de relais via Facebook, via le qui nous renvoie vers nos papiers qui sont en ligne derrière, quoi. Donc on peut pas ne pas y être, quoi. Voilà, est-ce qu'on apporte plus en bout de chaîne, oui, mais sur le moment on fait du Facebook comme n'importe qui ferait du Facebook, quoi.
Là, j'aurais juste, pour moi il y a quand même un élément différent, c'est que quand on reçoit la vidéo, on peut ne pas savoir qui a filmé. Et une vidéo, ça se monte, ça se coupe. C'est pas la vérité absolue. La différence avec le journaliste, c'est que le journaliste, il saura ce qui s'est passé avant, il saura ce qui s'est passé après.
Et pour l'expliquer, ouais.
Par rapport à ce qu'il a filmé, c'est-à-dire que lui, il aura les éléments de contexte. Parce que.
Non, mais là, je parlais des lives.
Oui, des lives, ouais, là, ouais. Oui.
Les lives que je fais ou qu'on,
oui,
nous, journalistes,
qu'on fait
faire,
tous, ouais.
Il n'y a pas de différence avec les lives des Gilets jaunes.
Oui. Non, mais quand toi et moi, on a aussi reçu des vidéos en disant, regardez, il y a telle voiture qui a brûlé à côté de l'hôtel de ville d'Évreux. Vous voyez bien que c'est la police qui a mis le feu. Ou, voilà. Sauf que la vidéo, elle montre rien.
Elle ne dit pas qu'il y a mis le feu, effectivement. Bah, voilà. Ça, donc, si nous, on l'utilise, et on peut pas l'utiliser comme ça. Il faut demander à la personne qui a filmé, d'ailleurs,
l'autorisation.
Si nous on l'utilise, il faut qu'on la replace dans le contexte, qu'on explique. Et c'est là où on apporte notre valeur ajoutée. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'est pas gilet jaune ou CRS. On est journaliste et on va essayer de décrypter ce qui s'est passé effectivement avant, après, et en donnant la parole à la fois aux gilets jaunes, aux CRS, en essayant de comprendre. Mais à la base, ce que je voulais dire, c'est que au moment du live, on est exactement comme les autres. Ouais. Et la valeur ajoutée, elle arrive après, quoi. Ouais.
Alors, une des valeurs ajoutées des lives et de ces fameux réseaux sociaux, c'est le commentaire. Est-ce que
moi, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est de la valeur ajoutée. Hein.
Bah, il y a une vidéo et du commentaire. Bah, justement, bah, ça peut apporter.
Oui, ça peut, mais c'est oui.
Des choses négatives ou des choses positives, oui, pour le coup. Il y a un regard sur les commentaires, justement, parce qu'à partir du moment où on a une page, à partir du moment où on publie sur les réseaux sociaux, on est un peu. Alors, je ne sais pas s'il y a une responsabilité légale, mais en tout cas, moralement, oui, quand même, on aime bien savoir ce qui se passe, quoi, sur ces commentaires. Comment ça se passe
La modération est obligatoire sur ce genre de choses. Enfin, je veux dire, sinon. Enfin, quand on se fait insulter, quand on se fait traiter de tous les noms, et on va en continuant à parler des gilets jaunes, ou enfin, le flot ininterrompu d'injures qui peut toucher les journalopes, voilà, c'est. On peut pas. Il y a un moment, ça tombe aussi sous le coup de la loi, quoi. Donc,
tout à fait.
Voilà, donc on peut pas non plus laisser dire et laisser commenter tout et n'importe quoi.
Alors du coup, ouais, alors au-delà de là, on prenait l'exemple particulier quand même des gilets jaunes et des vidéos, mais il y a d'autres lives, d'autres trucs qui sont beaucoup moins polémiques, en tout cas qui génèrent moins de réactions négatives, j'imagine. Non, pas forcément. Pas forcément, non. Mais du coup, je m'interroge.
On s'interroge. Enfin, moi, je m'interroge parce que même sur des sujets anodins, souvent on a des commentaires, mais c'est assez effrayant. Ouais. Donc, on les supprime évidemment, mais. On a l'impression que sur Facebook, en tout cas, y a les gens bienveillants sont pas là, quoi. Il y a que les gens qui ont envie de déverser un peu de haine ou de
fiel,
là, de voilà. Fiel, ouais, qui sont là pour. Enfin, dans la grande majorité, il y a aussi des bienveillants, évidemment, mais c'est parfois, souvent, assez attristant, ouais, je trouve.
Alors ça, du coup, faut faire avec, parce que c'est le 21e siècle, ça avance comme ça, puis il y a pas le choix, quoi. Il y a des journaux qui répondent en tant que journal sur directement les commentaires.
Paris-Normandie le fait
directement.
On le fait aussi dans la mesure de nos moyens, parce qu'il faudrait
C'est quasiment un boulot à plein temps.
Il faudrait quelqu'un à plein temps, un webmaster,
un modérateur, un community manager, voilà. Ouais,
cette remarque autour notamment des gilets jaunes, de ce que ça peut susciter chez une partie de la population, mais en faisant aussi le lien avec ce qui s'est passé chez Mediapart, on a parfois la sensation que quelque part les journalistes sont entre plusieurs feux, je sais pas, un désamour un peu à l'image de la classe politique d'une partie de la population, et aussi un rejet ou un ressentiment de la part de la classe politique. Voilà, comment on se positionne quand des fois humainement ça doit être possible d'être j'imagine atteint. Voilà, on se dit tiens, les gens nous aiment pas trop entre les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut vivre dans les manifestations dans certains endroits, les gens nous aiment pas trop, ils aiment pas peut-être la question serait autour du comment on vit tout
comment
ça d'un point de vue
vivre,
d'un point de vue humain, en se disant bon ok, on peut faire des erreurs, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on fait une erreur on se corrige, quand on a l'info en temps et en heure pour pouvoir se corriger, on peut comprendre qu'on exacerbe certaines tensions quand les sujets sont polémiques ou que voilà, pour x ou y raison, mais après comment rentre chez soi et qu'on laisse le sac à dos au coin de la cheminée.
C'est pas facile. Moi quand je rentre le soir à la maison, ma femme me récupère dans un état déplorable, je suis abattu, enfin je pleure quasiment tous les soirs. Non, c'est pas vrai,
on sent beaucoup d'ironie.
Non, mais effectivement il y a des attaques contre les journalistes, contre les politiques, il y a des attaques contre les profs, enfin j'ai l'impression que plus personne n'aime personne, c'est ça qui est terrifiant. J'en parlais encore tout à l'heure là, mais oui, on n'est pas les seuls visés. La société civile n'aime pas les agriculteurs parce qu'ils balancent des pesticides. Les agriculteurs n'aiment pas les écolos. Enfin, plus personne ne supporte rien, ni personne. Voilà. Donc, je me sens, moi, journaliste, pas particulièrement visé, quoi. C'est un phénomène global.
Voilà. Alors, pas particulièrement, mais effectivement, oui, mais quand même.
Mais quand même.
Voilà. C'est. Et je crois que la façon un peu de se dire le lendemain matin. Allez, j'y retourne quand même. C'est que de se dire que tu regardais en face et de dire, est-ce que j'ai fait mon boulot honnêtement? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Est-ce que j'ai écrit sous pression? Est-ce que j'ai été influencé? Et quand on répond à ça, quand on est en mesure de répondre à ça, on se dit, bon, allez, c'est bon, je peux y retourner. Parce que, allez. Je sais pas ce qui m'attend aujourd'hui. Je vais faire des rencontres super. Je vais faire un reportage génial. Je vais faire un papier qui va peut-être changer la vie de quelqu'un. Voilà. Et puis ça efface aussi une bonne partie des difficultés.
Alors il y a une question dans ce que vous renvoyez, Monsieur Pignon, il y a une question d'amour, enfin de plus être en bonne grâce auprès du public, mais il y a une autre question, moi, qui est assez liée, c'est cette notion de confiance aussi. Au-delà de aimer pas aimer, il y a eu, j'ai la sensation, alors peut-être que je me trompe et vous corrigerez si je me trompe, mais il y a eu cette sensation où il y a une perte de confiance sur l'écriture, enfin en tout cas d'un papier d'un journaliste. On le voit aujourd'hui notamment à travers Internet, les blogs. Tout le monde s'improvise journaliste ou en tout cas s'improvise éventuellement propagandiste. Enfin, peu importe. En tout cas, il y a un flou qui se fait au niveau de la fonction d'information. Et j'ai la sensation qu'en fait, il y a une perte un peu de confiance. L'information en continu a souvent été pointée du doigt, notamment à la télé. J'ai l'impression qu'il y a une sensation de confiance, comme s'il fallait que le journaliste, pour que son article y passe et qu'il soit entendu, presque il fallait monter patte blanche de mise en confiance, quoi.
La perte de confiance, elle touche principalement, tu parlais toi des chaînes d'info continue, ouais, ce qu'on nous sert en permanence, c'est BFM TV. Ouais.
C'est devenu une insulte, hein. Maintenant, c'est vrai, quand on va en reportage, on dit BFM TV. Non, mais je suis Paris Normandie, lui c'est Heure Info La Dépêche, quoi. Voilà, c'est chacun sa façon de travailler.
On est relativement quand même à l'abri des critiques et de cette crise de confiance en presse locale, hein, parce qu'on a des liens étroits avec les gens. Quand BFM TV arrive à Évreux, comme c'est pas trop loin de Paris,
c'est facile.
C'est facile, c'est pas compliqué. Ils viennent faire un sujet assez stigmatisant sur le quartier de la Madeleine. Ils s'en foutent, hein, ils passent 20 minutes, il se barre, il revoit jamais les gens. Et nous, on peut pas se permettre de se carboniser en permanence. Donc, on connaît les gens.
Ils nous connaissent.
Ouais. On est en confiance malgré tout. Ouais. Mais par contre, sur les manifs, comme on a pu le vivre ces derniers temps, hein, dès que t'as un appareil photo, dès que tu viens avec un calepin ou pire avec une caméra, là, t'es assimilé aux chaînes d'info continue. Et là, oui, il y a plus de confiance.
Ou au pouvoir.
Oui.
Ah bah oui.
C'est bien, on évoquait le contre-pouvoir à un moment, et là finalement vous êtes.
On a un pouvoir, mais là c'est pas un, c'est le quoi.
Sur pardon, non, c'était, je trouvais que ça faisait une belle liaison, Adrien, sur cette question de proximité justement.
Oui, je me demandais par exemple aussi quel rapport existe entre les associations et les médias locaux.
Bah, les associations, on les voit au moins une fois par an, hein,
au moment des assemblées générales.
Au moment des AG, et puis elles nous tiennent régulièrement au courant de leurs événements, donc nous on décide de les couvrir ou pas, d'amplifier certains sujets avec eux, de mettre l'accent, comme t'as pu le faire dernièrement soit avec la boxe, ouais, on est très très proche des assos. Ouais, mmh. Ouais.
D'accord. Ouais. Ouais.
Parce que elles nous communiquent leur agenda, telle assos organise, mais ne serait-ce qu'un truc tout bête comme un concours de tarot ou une soirée moule frite avec un numéro de réservation, voilà, ça fait aussi partie le travail du journalisme local. Il commence là aussi en disant, bah, si vous voulez soutenir le club de badminton de Tarton Pion sur Yvette, c'est tel jour à telle heure, et d'appeler tel numéro de téléphone ou consulter telle adresse web.
C'est aussi la proximité justement de l'édition locale, c'est tout l'intérêt de l'édition locale justement, c'est d'être aussi en hyper proximité parfois sur des sujets. Au-delà du lien avec les associations, le lien avec les institutions, c'est parce que du coup c'est quand même une source d'information, les institutions, je pense à la ville, au département, à la préfecture, oui, la région, tout ça, enfin c'est une source
et
d'information.
Les intercommunalités maintenant.
Les intercommunalités, exactement. Et en même temps, le lien entre la presse et puis j'ai envie de dire les institutions ou les politiques en place, c'est toujours particulier, parce qu'à quel moment on se sert de la presse, à quel moment on est aussi en contestation de ce qui se passe à travers des articles. Je pense, on revient toujours au budget de la ville ou autre chose. J'imagine qu'il doit y avoir des coups de fil de temps en temps de non, ce serait bien de pas trop le dire, ou des choses comme ça. Enfin, ou vous m'avez fait un article qui nous met vraiment pas en valeur.
Oui,
c'était pas ça qu'on voulait dire.
Ça peut arriver, mais
il y a des liens, et du coup, on est face quand même à des gens qui ont un certain pouvoir quand même. Quand on est face aux institutions, il y a entre guillemets un pouvoir d'action qui existe. Du coup, la relation, elle n'est pas comme avec une asso, ou au pire.
Il y a un pouvoir d'action, il y a un pouvoir financier. Financier aussi. En tout cas, Paris-Normandie et Eurinfo La Dépêche, on a de la publicité de la ville, on a de la publicité du département, de la région, voilà. Nous, ce n'est pas notre parti. Nous, on n'est pas là pour négocier des contrats commerciaux. C'est un service à part. Nous, on fait notre travail.
Mais il y a un rapport de force quand même dans le. Enfin, un rapport qui peut être un rapport de force, nécessairement, mais il peut l'être.
Si ça nous est présenté comme ça à nous, enfin, en tout cas, moi, ma réponse, elle est facile en disant moi, je suis désolé, mais le contrat commercial, c'est pas moi qui gère. Moi, j'ai travaillé dans un autre titre du nord de la France qui a eu maille à partir avec un groupe de la grande distribution qui n'avait pas aimé un article et qui a coupé tout son budget pendant un an. Ça commence par haut, ça finit par champ. La rédaction en chef est restée droite dans ses bottes en disant l'article avait lieu d'être, il était étayé, il y avait des infos. Ben, ils ont retiré leur pub. Maintenant, il faut qu'on trouve à compenser. Mais la rédaction était dans son droit, le papier était tout ce qu'il y a de correct. Alors oui, il y a un pouvoir financier, mais là, c'est aussi au propriétaire ou à l'actionnaire de dire. S'il y a arbitrage, il doit y avoir, c'est à ce niveau-là, c'est pas au niveau de la rédaction locale.
Il y a quand même, j'imagine, parfois des tentatives à tort ou à raison, hein, d'ailleurs, hein, d'attirer l'attention sur tel ou tel élément parce que politiquement ça va aider, ou politiquement on est sur une grande réalisation que, par exemple, je sais pas, les politiques locaux pourraient décider, je sais pas, que la rénovation d'une place est le fer de lance de leur politique, ou je ne sais quoi. Je fais exprès de prendre un exemple à la con parce que j'en ai pas de crédible.
Oui, ils ont,
et puis
ils ont des moyens
d'appuyer.
Ils ont des attachés de presse recrutés.
Parmi les anciens journalistes.
Ouais, donc.
Quelquefois
des amis, donc ils sont pas complètement idiots. Hein. Ils nous abreuvent des communiqués de presse de la mairie, du département, de la région, des collectivités en général et de la préfecture. On en reçoit en permanence, quoi. On les traite pas tous.
J'imagine que des fois, il doit y avoir des insistances sur tel ou tel sujet. Non, il n'y a pas d'insistance sur dire là, faudrait vraiment parler de ça parce que, entre guillemets, ça nous arrange ou pas. Et peut-être parfois, juste titre, d'attirer l'attention.
Non,
non, pas forcément.
Moi, il me semble, enfin, ça a dû m'arriver une fois où j'avais fait le choix d'envoyer personne à une conférence de presse parce que je trouvais que le sujet était, en gros, le méritait pas. Et puis qu'on n'était pas non plus 15 000 ce jour-là, donc il faut faire des choix. Et après, on m'a dit, oh, vous n'êtes pas venu à telle présentation? Ben non. Non, mais j'aurais quand même bien aimé. Ben oui, vous auriez bien aimé, mais voilà.
Mais le lecteur,
lui, peut-être que en fait, il s'en fiche, ou on fera un autre sujet d'une autre façon sur le même thème, et voilà. Ça, mais franchement, c'est jamais aller plus loin que ça.
Bah, ça s'arrête à des petites réflexions, oui, mais c'est tout. Enfin, quand je dis ça, c'est faux, puisque je me souviens, sous le mandat précédent, la dépêche a été boycottée pendant plusieurs mois par le maire sortant là, donc il nous adressait même plus l'état civil, c'est-à-dire que les naissances alors ça fait partie des rubriques
Paris Normandie.
Là c'est le degré ultime du boycott quand même, hein.
Non, plus aucune invitation aux conférences de presse de la ville, etc. Ouais, on a été boycotté assez sévèrement, mais bon, finalement ça nous a permis de respirer aussi et peut-être de sortir un peu du créneau quelquefois imposé par la collectivité, quoi. On a traité les sujets autrement, non, mais on a continué à les traiter, ouais. Et ça a peut-être pas servi d'ailleurs.
On évoquait tout à l'heure la notion de dossier, d'enquête ou de choses, je dirais, plus fournies ou peut-être qui sont plus dans la durée. J'imagine qu'une enquête, on la fait pas du jour pour le lendemain quand
ça peut. Franchement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous avez une info à 8h du matin et elle est tellement grosse que
il faut la traiter tout de suite.
Il faut la traiter tout de suite. Alors des fois, on va se dire, il va être 17h, 18h. Est-ce qu'on la maintient quand même ou est-ce qu'on trouve un plan B? Et puis si c'est un lundi soir et qu'il y a Heure Info le lendemain matin, on va dire allez, vas-y. Si on est sûr, si on a les infos, voilà. Mais c'est non, oui, ça peut être une enquête sur une journée, quitte à s'y mettre à deux.
D'accord, oui, donc il y a des choses qui peuvent aller très vite.
Ça peut aller très très vite.
Mais justement sur ces choix de dossiers peut-être d'actualité qui est moins lié à l'actualité brûlante ou en tout cas à ce qui s'est passé la veille, il y a des stratégies pour dire bah là on aimerait bien se poser des questions autour de, je sais pas moi, du bien vivre, je dis n'importe quoi, mais du bien vivre, je sais pas, au centre-ville par exemple, qui est un dossier qui peut sortir aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, hein, sans aucun problème, ou dans 6 mois même éventuellement, il peut être tout aussi bon. Mais c'est à quel moment, comment au bout d'un moment on se dit bah là on va faire un dossier, un truc bien fourni, on va prendre du temps, on va aller voir de ci de là, parce que c'est aussi nécessaire, j'imagine, dans un journal, de pouvoir proposer des je sais pas des dossiers ou des
oui, alors nous c'était notre cœur de métier avant, hein, parce que on avait du temps pour développer des sujets sur la semaine. Malheureusement, on a de moins en moins le temps, mais sur des périodes où l'actualité est moins riche, par contre, oui, on fait des dossiers dits de société. Oui, voilà, c'est une organisation au sein de la rédaction. On propose, on discute, pareil, et on les sort dans ces moments-là, quoi. Mmh. Ouais.
Après, le terme dossier, pour nous, par exemple, il peut, par rapport à notre façon de traiter le sujet, le sujet fort d'Evreux tous les jours, quelque part, c'est presque, alors c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est presque un dossier tous les jours, dans le sens où on va avoir un article principal, et puis deux ou trois éclairages complémentaires du même sujet. Alors, ça peut se faire sur une journée, sur 2 jours, sur 3 jours ou sur une semaine. Après, nous, techniquement, on fait très rarement, pour pas dire jamais, de dossiers sur plus d'une page. Sauf à un sujet qui l'imposerait, où là on partirait sur une double page avec un joli visuel, etc. Mais
l'interview d'Edouard Philippe, par exemple, non,
là,
c'est ce genre voilà, de truc en
voilà,
double page.
Celle-là, a priori, elle part sur 3 pages. Enfin, c'était voilà. Mais elle part sur 3 pages. Mais là, du coup, c'est pour le coup, ça va être pour toute la région. Ça va pas être simplement la locale d'Evreux qui va se pencher là-dessus.
Et quand, c'est pas forcément fait... plus un dossier régional, c'est plutôt un dossier national, non?
Oui,
enfin,
mais
ça dépend de l'angle
voilà,
d'attaque.
Sauf qu'en l'occurrence, Edouard Philippe est à vrai, quoi.
C'est pas un dossier,
ça va vraiment être une interview, ouais. Voilà. Mais je pense à des sujets qui intéressent beaucoup les lecteurs d'après les retours que nous on a, c'est tout ce qui touche à la santé. Et en partant une fois de quelque chose qui peut se passer à l'hôpital, on inaugure un nouveau scanner ou qui en rigueur est à la base de l'agenda, c'est-à-dire qu'on va y aller, on va faire un article, ils ont un nouveau scanner machin, et on peut aussi nous on va partir de ça et puis on va dire d'accord, ils ont un nouveau scanner, mais dans les autres hôpitaux du secteur. Comment ils font à Verneuil? Comment ils font à Bernay? Comment ils font à Gisors ou aux Andelys? Est-ce qu'ils ont le même genre de matériel? Est-ce que quand on est quand on n'habite pas à Évreux ou pas à Louviers, pas à proximité de Rouen, comment on fait pour se soigner? Et là, nous, c'est vrai que c'est un peu notre force au niveau d'avoir des rédactions dans tout le département, c'est qu'on peut aller piocher à droite à gauche et proposer dans notre page départementale un dossier sur la santé, sur la situation des scanners dans tout le département.
Il y a des sujets comme ça qui intéressent particulièrement le public. Là, vous évoquiez à l'instant la santé ouais. Là, qui est un sujet qui intéresse. Il y a d'autres sujets comme ça qui intéressent.
Bah, si on le savait,
on mettrait ça tous les jours.
On mettrait tout ça à la lune. Mais enfin, non, il n'y a pas réellement de recette parce que même les faits divers qui jadis faisaient exploser les tirages ne marchent plus vraiment, ou alors faut vraiment que ce soit des trucs exceptionnels.
C'est créatif, ouais, dans le fait divers.
Pas créatif, mais enfin, il faut vraiment.
Il faut vraiment la grosse affaire.
Que ça sorte de l'ordinaire, ouais. Des sujets plus vendeurs ou les uns que les autres.
Des fois, on est surpris, hein. Il y a une quinzaine de jours, j'ai fait un sujet sur une dame de Verneuil qui souffre d'amaxophobie, c'est-à-dire c'est la peur de conduire. J'ai été stupéfait par le nombre de commentaires et de réactions que ça a suscité.
Alors tu parles du web ?
Ouais.
Ouais, sur le web, ouais.
Mais même par mail, même des gens qui nous ont écrit en disant j'ai vu votre sujet, c'est ce que j'ai, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça.
Ouais.
Alors que, enfin, c'est pas une révélation absolue, mais voilà. Des fois, on a des surprises comme ça, de se dire, on a un sujet qui va toucher les gens ou qui va.
C'est un sujet d'identification, clairement. Enfin, sur comme ça. Voilà, difficulté, c'est des gens s'identifient, et j'imagine, ou identifient quelqu'un de leur
qui connaissent.
Voilà. Et c'est clairement, ce que j'appellerais moi du sujet, de facilement d'identification, quoi, qui est plus simple que quand on parle, par exemple, du budget pour revenir, budget de la ville, par exemple, c'est plus difficile de s'identifier, oui, ça intéresse ou ça intéresse pas. Ouais.
Pourtant, là, en l'occurrence, ça va concerner tous les contribuables, de la ville en question. Donc, mais
globalement, on touche à la fin, sauf si vous voulez ajouter des éléments essentiels qu'on n'aurait pas abordés. Et là, faut pas hésiter. Globalement, le boulot de journaliste. Alors, je vois bien, cet intérêt de rencontrer du monde différent à chaque fois, puis d'être légitime en plus pour poser plein de questions. J'imagine que ça va être très très enrichissant en dehors de ces évidents avantages. Est-ce que c'est un boulot qui est simple, facile? Est-ce que c'est un boulot au contraire qui se complexifie? On évoquait le numérique, peut-être que ça c'est un des points de complexification éventuellement. Un petit peu, quel est dans ce métier de journaliste, quelles sont un peu les difficultés ou au contraire les facilités?
C'est un boulot qui est toujours aussi passionnant en ce qui me concerne. Moi, j'adore effectivement rencontrer des gens, être dans l'actu chaude aussi, sortir des infos. Je trouve ça toujours aussi excitant, mais ce qui devient compliqué, c'est la multiplicité des tâches. Ouais, c'est ça. Ouais. On nous demande de tenir toujours nos deux hebdos avec la même pagination, avec un peu moins de journalistes qu'avant, puisqu'on a été jusqu'à 12, on n'est plus que 6,5. Ça a diminué de moitié la rédaction. Et en plus de faire du web, d'alimenter les pages web au quotidien, de tenir les pages Facebook, de faire du tweet, ça fait beaucoup, quoi.
C'est une accumulation de petites choses. On dit tu peux faire ça en plus, c'est pas grand chose. Puis le c'est pas grand chose,
sans parler de la mise en page,
du cœur de métier, quoi.
De l'image, j'ai connu un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, où les journaux avaient des photographes, on faisait pas nos images, ou alors très peu. On avait une relecture efficace, des monteurs qui s'occupaient des pages. Nous, maintenant, on monte nos pages, on fait nos photos, on rentre nos photos dans les pages.
Ça resserre pas, du coup, la vision du sujet. Je suis en train de me dire, avant, il y avait 4-5 personnes qui intervenaient sur le même article, en fonction de de sa spécialité, la photo, l'écriture, l'art lecture, la mise en page. Du coup, ça faisait quand même des regards différents. Aujourd'hui, c'est la même personne qui le fait. Est-ce qu'il n'y a pas sans dire que c'est mauvais ou autre chose, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas au bout d'un moment, finalement, il n'y a plus qu'un seul regard sur ce qui a été produit, ou de toute façon, à l'époque, ça ne changeait pas grand-chose?
Bah, ça ne changeait pas grand-chose. Le photographe, de toute façon, faisait les images, mais c'est le journaliste qui les choisissait avec le photographe. Donc là, il y avait un échange. Bon, oui, il y avait deux regards, effectivement, mais après, sur la mise en page, c'est simplement un travail de calibrage, quoi.
C'est plutôt un travail technique.
Oui, c'était un boulot technique. Mais donc, ce boulot technique, maintenant, on doit le faire, nous, quoi. Ça, c'est arrivé, et plus tout le reste, tout ce que j'ai évoqué avant, quoi. Donc, ça fait une charge de travail assez énorme, et du coup, on est de moins en moins sur le terrain, et on est de moins en moins en contact des gens, voilà. Alors, donc, on va se sourcer, ou sur les pages Facebook, où on récupère pas mal d'infos. Des infos qu'il faut vérifier.
Il faut creuser derrière, oui, parce que c'est
qu'il
pas...
faut vérifier, mais avant on allait les chercher au bistrot, ces infos-là.
C'était quand même plus sympa.
Bah, on pouvait boire une petite limonade, évidemment, et puis discuter le coup. Voilà, maintenant on sort plus tellement de la rédac, on est sur les ordis, vissé sur les réseaux sociaux, à regarder ce qui tombe, et pour essayer de le développer et surtout le vérifier. Ouais.
Après, par rapport à ce que tu disais, nous, ce qui nous concerne, on a encore trois personnes qui interviennent sur chaque article. Ah bah, je vois pas comment on pourrait faire moins. C'est-à-dire qu'on a celui qui écrit, qui fait la photo, le secrétaire de rédaction qui va relire toute la page, qui va bien la calibrer, voilà. Donc ça fait un deuxième regard, parce que le secrétaire de rédaction, c'est un journaliste. Simplement, il écrit pas et il sort pas, mais il est quand même là. Et le troisième regard, ça va être le chef d'agence ou un autre journaliste qui va relire la page sur papier avant qu'elle parte dans le système directement à l'imprimerie. Donc, au moins, on peut croiser les regards et la façon de voir les choses et de traiter l'info. Donc, c'est entre celui qui écrit et le moment où ça arrive à l'imprimerie, il y a plusieurs interventions humaines qui permettent déjà d'éviter un maximum de bêtises, et puis d'apporter une vraie d'apporter une valeur ajoutée au travail, quoi.
Monsieur Pignon.
Oui, j'aimerais dire, et puis après ça débouche sur une question, mais pour rectifier un peu, dans les manifs de Gilets jaunes, on se fait pas en tant que journaliste que prendre à partie quand même. Non, mais c'est important de le dire, parce que faudrait pas que les gens écoutant notre émission se disent
voilà.
Mais voilà, ça n'arrive pas systématiquement, et heureusement.
Oui.
De façon peut-être un peu plus légère, est-ce que vous, il y a des, à titre plus perso, des sujets comme ça qui vous portent, vous trouvez ça essentiel et vous êtes friand quand justement, tiens, l'actualité ou ce qui se passe en ce moment vous donne l'opportunité de le traiter, et éventuellement, quels sont-ils?
Des sujets qu'on apprécierait
plus particulièrement.
Je sais pas, moi, l'actualité chaude, j'aime ça de toute façon. Mais en dehors de ça, moi j'aime beaucoup les belles rencontres, les portraits, les papiers que tu peux un peu travailler, ciseler un peu plus avec du temps, quoi, avec du temps. J'aime bien, ouais. Où tu peux apporter un peu plus de fond que sur... le récit
sur un compte rendu
à chaud,
à la fois sur le fond et sur la forme, parce que c'est vrai que quand on est journaliste, on aime écrire a priori, donc des fois il y a certains articles qu'on fait, alors je vais pas dire mécaniquement parce qu'on n'écrit jamais mécaniquement, mais des fois on se dit celui-là j'ai un peu plus de temps, je vais le travailler un peu plus, je vais même laisser passer la nuit, puis j'y reviendrai demain, et pour fournir un truc où on est aussi content pour soi. C'est-à-dire qu'on se dit ça va être lu, et puis ça sera pas exactement le même que celui que j'ai écrit et qui paraîtra juste à côté, quoi.
Pour conclure, une des particularités de la presse, c'est les titres. Hein. Souvent, j'imagine, ça doit être un casse-tête de trouver le titre d'un article ou le titre de la une ou autre chose. Pour conclure là-dessus, quel est votre meilleur titre, votre jeu de mots ou pas confondu, hein, qui peut être au niveau du contenu ou qui peut. Oh, s'il y en a, je suis sûr que vous vous rappelez encore parce que vous êtes content du titre ou soit du jeu de mots, soit de la vanne, soit au contraire d'avoir été précis. Je suis sûr que vous vous souvenez de quelques-uns dont vous êtes fier, ouais, quand même.
Il y en a, moi, que.
Moi, il y en a dont je suis pas fier.
Il y en a, oui, je suis pas fier du tout, mais je vais pas vous le dire.
Non, mais c'est pour ça,
on va plutôt aller sur... horrible. Non, mais alors, un truc marrant, j'avais fait, un papier sur une espèce de safari de nuit au golfe d'Evreux sur deux chasseurs de taupes qui viraient les taupes à coups de fusil de chasse du golfe municipal, toi. J'avais titré Top Gun. Bon, c'est voilà. Marrant.
Ouais. Alors là,
sinon le pire, là... je peux pas vous le dire. Vous le direz après.
D'accord. En antenne. Non, franchement, là. Là, c'est. Dans les jeux de mots.
Pas forcément dans le jeu de mots.
Ouais, non, mais. Il y en a un qui me vient où. J'ai fait un déplacement de sport avec une équipe de basket à Budapest et l'équipe que je suivais avait perdu et j'avais juste mis Hongrois qu'on peut gagner. Et. Et à la fin on perd, c'était Hongrois qu'on peut gagner, et puis j'avais taqué le papier par et à la fin on perd. Mais voilà, celui-là il m'avait fait rire, mais le pire c'est que j'avais trouvé le titre avant d'avoir écrit le papier, donc
C'est ça, fallait perdre sinon ça marchait pas,
ouais.
Ah ouais, moi je peux pas commencer le papier si j'ai pas le titre. Hein.
Ah oui, non mais...
Ah oui, ça fait partie du travail de faut le titre avant de...
Et après, il y a un truc qui est sympa aussi au niveau de notre rédaction, notre plateau, c'est que... Quand quelqu'un trouve pas un titre, il va dire ah, je trouve pas de titre, j'étais le sujet machin, et du coup on va être deux ou trois à passer derrière, on va lire le papier, et puis là il y en a un qui va sortir une idée, puis l'autre il va en sortir une autre, et puis on va sortir un titre.
Ça peut être
c'est là que ça peut déraper. Ou alors même le secrétaire de rédaction, donc le premier qui va relire le papier, va dire le titre il est un peu faible, ou est-ce qu'on mettrait pas ça, donc il va le proposer. Rédacteur va lui dire bah non, je trouve que c'est pas une bonne idée. Ou oui, ah bah tiens, c'est bien vu. Donc du coup, mais on a pas de comité de titrage comme à Libé, hein.
Libé ou dans certains nationaux, je sais pas si c'est toujours le cas, mais les journalistes livraient leurs papiers sans titre et sans chapeau.
Ou avec des propositions.
Ouais. À Libé, mais il y avait des titreurs, des vrais titreurs.
C'est un vrai métier. Hein. Ouais.
Et du coup, cette fois, c'est la dernière question. Comment se conclut une conférence, le bouclage. Oui, le bouclage, pardon. Comment se conclut le bouclage la veille de la sortie?
Généralement,
il y a un truc qui. Non, mais il y a un truc qui conclut, pas un bouclage.
À l'ancienne, quoi.
Ouais. Là, on descend les escaliers qui nous séparent du Longchamp, un petit bistrot qui est juste à côté de chez nous. Puis on boit une petite mousse pour se relaxer un peu avant de recommencer.
Nous, non. Peut-être parce qu'on n'a pas de bistrot à proximité.
Non, parce que c'est quotidien.
Et celui qui est en face.
Ça serait de l'alcoolisme.
Voilà, ça serait de l'alcoolisme.
Au quotidien.
Et celui qui est en face, il est fermé à 19h30 ou 20h quand on boucle. Sinon, il y a un peu une question rituelle, c'est t'as appelé la tour.
C'est la tour.
La tour. Parce que au niveau du pilotage du journal, à Rouen, il y a un service qui s'appelle la tour de contrôle qui gère toutes les pages de toutes les éditions. Donc, d'où son nom de tour de contrôle. Et quand on a fini, qu'on a envoyé toutes nos pages, qu'elles sont terminées, le but, c'est qu'il y en a un qui passe un coup de fil et qui dit à la tour, c'est bon, pour l'heure, on a fini. Donc, la question, c'est, t'as appelé la tour, quelqu'un a appelé la tour. Donc là, on sait que c'est bon et rendez-vous demain. Alors, rendez-vous demain, pour certains, ça peut aussi dire entre deux, partir en reportage, parce qu'il y a un truc le soir tardif, mais en tout cas, voilà, c'est...
Le bouclage se conclut par celui-là.
En gros, on se dit, le journal de demain, il est fini, on est déjà sur le journal d'après-demain, quoi.
D'accord. On est déjà sur le... pas sur celui du lendemain, qui est déjà en cours.
Parce qu'il est déjà en cours.
Ok. Bon, je préfère les bouclages quand même à l'heure sur les dépêches, honnêtement. Hein.
Vous êtes le bienvenu.
À la tour.
Voilà.
Bon, c'est pourquoi pas. Hein. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir échangé avec nous sur toutes ces questions. J'espère qu'on y voit un petit peu plus clair. En tout cas, moi, ça m'a aidé à y voir un petit peu plus clair. Merci à vous, Charles Giovacchini.
Giovacchini.
Non, mais pour. Et en plus, c'est terrible, quoi. Giovacchini, quoi.
Ouais, c'est
tout
ça,
simplement. Voilà. Charles Giovacchini, rédac chef de l'heure info La Dépêche. Merci à vous. Vincent Le Gallois, Paris-Normandie. Vous êtes responsable d'agence locale. Merci à vous d'avoir échangé avec nous. Pour radiopropulser cette émission jusqu'à vos oreilles, et ça n'aura pas été sans mal, c'est la complicité d'Adrien et d'Elsa que nous avons eu à la MJC Bel et Bas. C'est notre ami Pignon et notre ami Jean-Jean qui ont assuré la mise dans le tuyau.